Informer, comprendre, agir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour la planète. C'est l'heure de la chronique environnementale avec Jean-Louis Caffier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chronique environnementale sur Studio 45. Aujourd'hui, on vous propose un voyage au cœur d'un grand rendez-vous international, la COP, la conférence des parties sur le climat. C'est un événement planétaire, mais souvent perçu comme un peu lointain, un peu technique. Alors, à quoi ça ressemble une COP? Qui participe? Et comment tout cela s'organise? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, comme à chaque fois, notre journaliste spécialisé aux questions environnementales, Jean-Louis Caffier.
Bonjour,
bonjour Jean-Louis.
Bonjour Romuald, bonjour à tous.
Alors, forcément, tu as participé aux COP, notamment celui de Copenhague pour LCI et TF1,
oui, oui.
Et Paris pour BFM TV. Alors, première question toute simple,
oui.
À quoi ça ressemble une COP? Concrètement, qui y participe?
Alors, une COP, ça ressemble à une COP. Il faut savoir qu'il y en a trois dans la série. C'est né comme idée lors de la conférence internationale de Rio. En 1992, on s'est dit, à partir de là, l'ONU notamment, il faut créer des structures pour essayer de discuter tous ensemble des solutions à apporter. Alors il y a trois types de COP, le climat, bien sûr, la biodiversité, consacrée à tout ce qui est le vivant, et les océans, troisième. Et à chaque fois, c'est pareil. Comme c'était venu de la conférence de Rio, qui avait été un truc très international, où on accueillait des politiques, des scientifiques, des ONG, des associations diverses et variées, l'ONU s'est dit il faudrait trouver le même système pour ces COP. Et c'est pour ça que, dans les participants, il y a bien évidemment les États, avec les négociateurs, quel que soit le sujet, mais ça a été ouvert aux élus. Il y a beaucoup de maires de grandes villes, par exemple, qui participent au COP climat pour essayer de trouver des idées. Les idées, on peut les trouver auprès des ONG qui sont là aussi. Il y a des stands, hein, ils ont pignon sur rue, ils sont là dans le cadre de la COP avec leurs idées, leurs propositions. Et puis, il y a aussi des entreprises. Les entreprises qui sont liées aux économies d'énergie, à la gestion de l'eau, à la création de supports pour produire de l'électricité décarbonée. Toutes ces entreprises se retrouvent là. Ce qui veut dire qu'il y a des contacts aussi très nombreux entre les ONG, ces entreprises, on discute ensemble, les élus qui sont intéressés par des produits qui sont proposés et les entreprises qui sont intéressées par quoi? Par trouver des clients. Donc, il faut savoir que la COP, c'est un truc très étatique avec des négociateurs qui sont enfermés dans un espace un peu réduit. Et puis, tout autour, c'est une sorte de grand forum avec une partie exposition universelle, si on veut, avec plein de trucs à voir, à écouter aussi.
Bah c'est vrai qu'on imagine c'est un immense espace. Un peu, on va dire, comme les salons, on va vendre du coup les produits ou les marchés de Noël.
C'est ça, c'est une sorte de mélange de palais des congrès et de parc d'expositions, genre la Porte de Versailles à Paris ou Villepinte ou des endroits comme ça, qui sont très grands. Parce qu'il faut bien avoir comme idée qu'une COP, c'est minimum 20 000 personnes et plutôt 30 ou 40 000 pour les grosses COP. Mmh. Tous les 5 ans, il y a une grosse réunion qui est censée faire des propositions précises. Ça a été celle de Copenhague, ensuite Paris, ensuite Glasgow. Et là, on se retrouve à Belém, au Brésil. Tous les 5 ans, il y a une COP qui est censée décider d'un certain nombre de choses. Et là, il y a évidemment, effectivement, beaucoup, beaucoup de monde.
Mais comment est organisée cette conférence? Qu'est-ce qu'on y trouve? Parce qu'il y a, comme tu as expliqué, il y avait des ONG, des pays, des entreprises même.
Oui, oui, oui.
Il y a aussi des zones de presse et des débats aussi autour de cette COP.
C'est ça. Alors, il y a les négociations. Ça, on en a parlé rapidement parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'espace négociation. Même les journalistes ne sont pas autorisés. Ils sont autorisés à aller partout sauf là, évidemment. Et puis, ce qu'il y a dans la journée, c'est énormément d'événements. Oui. Il y a des conférences de presse, mais il y en a plusieurs dizaines chaque jour avec des... Pareil, ce sont les villes qui vont dire bah, « voilà ce que nous, on fait à Paris ou à Orléans ou à Gien pour lutter contre le réchauffement climatique ». Il y a les entreprises qui proposent aussi des rendez-vous. Il y a des intervenants qui viennent de l'extérieur, des scientifiques, des chercheurs. C'est extrêmement riche et varié. Et chacun tente évidemment de faire sa place dans cet espace COP, qui est, pour tous ceux qui s'occupent d'environnement, de climat et d'énergie en particulier, the place to be. C'est l'endroit où il faut être pour exister. Alors, il y a aussi une grosse bagarre avant les COP pour avoir les autorisations. Bah oui, le WWF français, par exemple, que je connais bien, ils vont demander 10 places. Pour Belém ou pour Copenhague ou pour Paris.
Et pourquoi ils ont moins d'autant de place ?
Ah oui, parce qu'ils ont envie que leur permanent participe à ce genre de choses. Et puis là, j'imagine. La COP va dire, attendez, vous êtes bien gentils, mais 10, c'est beaucoup, on en met 5. Voilà. Et donc, tout le monde, après, va appeler les organisateurs qui sont basés à Bonn. Le centre névralgique des COP, c'est Bonn, en Allemagne. Donc, ils vont appeler les uns après les autres. Ben, nous, on a une petite ONG, mais on voudrait bien, parce qu'on a ceci, on a des propositions intéressantes. Il y a plein de négociations qui se font, quoi, comme ça. Et ben, les plus influents ont des places. Et je peux vous dire que les téléphones des ministères de l'environnement, de l'énergie, sonnent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tenter de convaincre d'inviter telle ou telle association ou ONG. Quoi.
Côté ambiance, on s'attend à quelque chose de très formel. Est-ce qu'il y a aussi une part de convivialité, d'échange plus informel entre les délégations ?
Oui, c'est un peu festif parfois. Le fond du problème, il est quand même grave et sérieux, et je pense que tout le monde est concerné. On le sent. Il y a quand même une atmosphère qui est dure quand on dit on va prendre 3 degrés de plus dans quelques décennies. Hein. Donc c'est pas tout à fait joyeux, une COP. Il faut prendre des décisions qui parfois sont difficiles. Les négociations sont très hard entre les petits pays, type les pays insulaires du Pacifique, et les grandes puissances. Les attitudes des grands pays, États-Unis avec Trump, Chine ou Inde, ne facilitent pas la bonne ambiance. Mais bon, il y a aussi plein de trucs, il y a aussi plein de petites cérémonies, manifestations qui égayent l'atmosphère. Alors bon, ça marche toujours.
Comme quoi,
toujours
par exemple ?
Très bien, comme quoi. Bah, j'ai souvenir, hein, c'est marrant, d'une réception à l'ambassade de France.
À l'ambassade de France.
Ouais, l'ambassade de France était impliquée dans tout ça, enfin forcément, quoi, ils accueillaient les ministres, etc. Et comme ils ont vu qu'il y avait une grosse effervescence et beaucoup de Français avec les ONG, les élus, tout ça, ils ont dit on va faire une petite réception. Et donc ils ont invité tout le monde à l'ambassade, donc, mais ils n'ont pas bien mesuré que les ONG et les journalistes et tous les participants, ça picolait aussi un peu. Surtout en fin de journée, quand on avait bien pris la mesure de tout ce qui s'était passé. Alors donc, on a commencé, et puis assez rapidement, il n'y avait plus rien. Donc l'ambassadrice a ouvert sa cave, et les employés sont allés chercher ce qu'il y avait dans la cave, et puis petit à petit, il n'y avait plus rien du tout, du tout, du tout. Borlo est arrivé, il n'y avait plus une bière à boire, il n'y avait que des jus de fruits. Donc, scandale dans la COP de Copenhague, même si je plaisante, hein, Borloo, il n'est pas alcoolique comme il est présenté dans les guignols. Hein. Il mouille de picoler comme moi, comme plein de gens, mais bon, voilà.
Et
il a fallu en catastrophe aller à l'épicerie du coin la plus proche pour ramener un truc pour Borloo et ses
suites. Du coup, ils ont pu trouver une bonne bouteille de vin.
Je sais pas, j'ai pas goûté, mais ils ont trouvé quelque chose.
Là, j'imagine, ça doit être quand même assez
festif. Enfin bon, c'était un esprit comme ça. Mais il y a, comment dire, une bonne relation entre les différentes familles, entre les entreprises, les ONG, les associations, les élus. Si les gens sont là, c'est parce qu'ils ont forcément un intérêt pour la question et une connaissance des dossiers aussi.
C'est le plus important, forcément. On est venu là pour le climat. Et
oui, c'est ça. Ce sont des gens qui
c'est
vont
le
pas
sujet le plus à cœur et dans notre société actuelle.
Ce sont des gens qui attendent pas qu'on leur explique ce qu'est le réchauffement climatique et ses conséquences, mais qui essaient d'avancer tous ensemble. Et il y a un sentiment qui est de plus en plus affirmé, c'est qu'on ne pourra pas résoudre une partie de la question climatique si on ne fait pas ça tous ensemble.
C'est vrai.
Entre les consommateurs, les acteurs, les retraités, les élèves, les jeunes, les entreprises, les associations, etc. Quoi. Donc tout le monde, il y a une sorte de solidarité quand même sur le sujet. Quoi.
Mais c'est vrai qu'aussi, il y a des pays qui sont forcément présents, n'ont pas non plus de bonnes relations avec d'autres. Et forcément, pour les votes, notamment pour l'ONU, un pays égale une voix.
Oui.
Mais dans la réalité, tous les pays pèsent autant dans les négociations ou c'est pas forcément le cas. C'est...
Je veux dire, les États-Unis ont une armée de négociateurs. Quoi. C'est pas le cas des pays. Alors ils se regroupent. Il y a beaucoup de pays africains, pays asiatiques aussi, qui créent des structures qui leur permettent d'exister un petit peu dans les négociations, parce que c'est compliqué. Hein. Là, on rentre vraiment dans la tuyauterie avec énormément de données techniques, de données fiscales, par exemple, oui, qui sont difficiles à gérer. Et puis, il y a toujours cette question de fond, c'est la faute à qui et qui paye ? Qui paye ? Parce que, bon, aujourd'hui, c'est la Chine qui émet le plus de gaz à effet de serre, mais si on prend l'histoire des énergies fossiles depuis 150 ans, c'est d'abord les États-Unis, suivis par l'Union européenne, et les autres pays sont loin derrière, même en tenant compte de ce qui se passe, oui, et ce qui se passe pas bien du tout en Chine ou en Inde.
Oui.
Ou ailleurs. Donc voilà. Alors le poids dans les discussions, bah, il est évidemment très différent. Mais il y a une chose qu'il faut connaître, c'est que le texte de l'accord doit être signé à la virgule près, le même, par 197 pays.
J'imagine.
Donc si un pays refuse de signer, l'accord n'est pas validé. Donc ça donne une force de puissance et de nuisance importante. Donc le petit pays va dire, bah, moi je veux ça, et notamment de l'argent, parce, ouais, qu'il faut bien voir qu'on discute beaucoup de gros sous dans ces COP.
Parce qu'il faut l'accord de tous les pays pour que cela passe, ou oui, il faut qu'il y ait une majorité
L'accord de tous les pays.
Ah oui.
Ça se fait par consensus. Oui.
D'accord.
Et s'il n'y a pas consensus, il n'y a pas d'accord. Donc c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire des COP qu'il n'y ait pas d'accord. Il y a eu des accords parfois qui entérinaient le fait qu'il n'y ait pas d'accord. Alors, ils sont contents de dire, on s'est mis d'accord pour dire qu'il n'y avait pas d'accord. D'accord. Voilà. Et puis il y a des...
Compliqué comme situation.
Non, mais il y a des gros sous, parce que bon,
oui, j'imagine,
les pays en développement disent, écoutez, nous on veut bien nous développer différemment par rapport à ce que vous avez fait avec les énergies fossiles, notamment le charbon, le pétrole et le gaz, mais alors donnez-nous les moyens d'imaginer d'autres systèmes pour produire notamment de l'électricité. Alors à Copenhague, on avait conclu, il faut donner 100 milliards par an aux pays en voie de développement. C'est passé à 300 milliards la COP suivante. Et là, les pays en voie de développement réclament 1 300 milliards de dollars par an.
Ouais.
1 300 milliards de dollars par an à l'horizon 2030.
C'est plus le même chiffre, là.
Non, on n'est plus. Mais je veux dire, il faut faire très attention,
bah,
parce
que
la lutte contre le réchauffement climatique, ça va coûter très cher.
Oui,
le
oui.
problème, c'est que si ça coûte cher aujourd'hui, ça va coûter encore plus cher si on ne fait rien quand il s'agira de réparer les dégâts des catastrophes naturelles, des sécheresses, des inondations, etc.
Quoi. Et j'imagine, en termes géopolitiques, forcément, entre pays et aussi... les grands pays mondiaux comme la France,
on
voit aussi avec actuellement les tensions avec la Russie, tout ça, ça peut être aussi balancé sur la balance en termes de négociation.
On va voir qui vient à la fin, donc à la fin des deux semaines.
Oui.
En principe, il y a les chefs d'État ou de gouvernement qui sont là pour signer l'accord final. Alors on verra qui est là, parce qu'il peut y avoir une rencontre dans un couloir entre... deux acteurs du conflit en Ukraine, par exemple.
Oui, j'imagine. Oui.
D'autant qu'il y a beaucoup d'énergie derrière le conflit en Ukraine, hein, comme on le sait. Hein.
Et comment ça se passe, une journée type, pour un journaliste de la COP, comme toi, qui a participé, Jean-Louis? Ça ressemblait à quoi, tes journées?
Je prends l'exemple de Copenhague, parce qu'à Paris, c'était un peu différemment. C'était plus éclaté comme journée. Enfin, voilà, il y avait beaucoup plus de studios. La journée, elle commence tôt, parce que j'avais une chronique le matin et une le soir sur LCI. Donc, on a déjà deux, trois idées de ce qui va se passer dans la journée, quand même, de qui va intervenir, parce qu'il y a des séances plénières aussi, où les pays s'expriment. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes à chacun de ces pays, d'ailleurs, qui ont parlé d'égalité entre les... C'est assez marrant, j'ai d'autres trucs, mais bon. la journée, elle commençait assez tôt. Moi, j'avais mes potes au service de presse de la COP, donc je passais les voir direct pour voir quel était le programme de la journée. Ils faisaient ça tous les matins. Donc, on a une feuille où sont inscrits toutes les conférences, tous les points de presse, tout ce qu'on veut dans la journée avec les endroits et tout. Alors moi, j'étais là très tôt, puis je disais au mec, moi, celui-là, il m'intéresse. Est-ce qu'on pourrait faire une interview? Alors il demandait la délégation. Ah non, ils n'ont pas le temps, allez-y. Mm-hmm. Juste deux, trois questions. Il dit non, une question. Bon, d'accord. Alors c'est comme ça que j'ai eu l'ancien négociateur et proche de Tony Blair, qui avait fait un rapport, Nicolas Stern, l'ancien directeur de la Banque mondiale, sur le réchauffement climatique, justement. Et j'ai pu avoir un petit rendez-vous avec lui. Ça a duré exactement 20 secondes. Mais je m'en foutais, j'étais content. Moi, ça me suffisait.
Ah oui, c'était
pourquoi on sait rapide. Tout, on sait tout sur le climat et pourquoi on fait rien. Il me dit, tant qu'on ne sera pas dans le mur, ça ne bougera pas.
Allez, j'imagine.
Terminé, on passe à autre chose. On va boire un coup.
Comme ça. Ça a été une réponse simple et...
On n'a pas dit, il y a aussi... Alors, donc, on fait ça toute la journée.
Oui.
Et puis, il y a différents journalistes. Il y en a qui ont les moyens d'avoir un bureau. Nous, on avait ça avec TF1 et LCI. Et puis, sur la porte, il y avait marqué TF1 et LCI.
D'accord.
Bon, LCI, tous les négociateurs ne connaissent pas et ne savent pas ce que c'est. Mais TF1, ils savent.
D'accord.
Donc, je voyais, les gens, ils venaient nous brancher. Moi, il y a quelqu'un de la Commission européenne qui est passé. Il m'a dit, Barroso, ça vous intéresse en interview? Donc, c'était le secrétaire général de l'Union européenne à ce moment-là. J'ai dit, Ouais. Donc je n'ai pas dit que c'était pour LCI, ils croyaient que c'était pour TF1, c'est pas grave. Mais on a fait l'interview alors.
C'est à peu près le même groupe de toute façon TF1. Oh
non, mais
LCI,
c'est le même groupe. Mais l'attaché de presse de la Commission européenne, il cherchait à avoir un maximum d'audience. Donc TF1, on a plus que LCI.
C'est sûr, c'est la chaîne.
Mais nous, on était contents parce que comme ils nous prenaient pour un autre, on a pu avoir l'interview. Donc Barroso était là en direct au Journal du Monde le soir avec Vincent Hervouette à la fin. À l'arrivée à Paris, quoi. Voilà, donc tout le monde était content. Et puis donc on va d'un endroit à l'autre. Il y a aussi des happenings dans les différentes salles. Il y a des manifestations. Il peut y avoir des contestations. Alors c'est beaucoup les pays pauvres qui gueulent. Voilà, mais il y a aussi des ONG qui amènent des artistes.
Ah,
il y a parfois de la musique, il y a parfois du jonglage avec la terre, enfin des trucs comme ça. Il y en a. Non, mais il y a pas mal de travail d'imagination. Non, mais il y a un aspect comme ça. Hein. Il y a un aspect à la fois cours des miracles et fête de la musique. Quoi.
Tout est rassemblé pour un seul événement, c'est le COP.
La COP.
Eh ben, Jean-Louis, on va terminer cette chronique par cette belle réponse sur la COP. Forcément, on a pu découvrir les coulisses de cette conférence qui est forcément un grand enjeu.
Oui.
Et aussi, qui a un peu cette ambiance un petit peu festive, même si forcément on échange pour l'avenir de notre planète.
Oui. On en parlera la semaine prochaine.
On parlera
la semaine prochaine des chiffres qu'on attend, des financements, des initiatives diverses et variées pour tenter justement de limiter ce réchauffement climatique qui nous menace de plus en plus.
Et on va notamment parler du point sur l'accord de Paris et évoquer aussi les enjeux de la prochaine COP30.
Absolument.
Eh bien, Jean-Louis, à très bientôt.
Eh bien, merci. Bonne semaine à tout le monde.
Et d'ici là, prenez soin de la planète et restez à l'écoute de Studio 45.